je crois que c'est un texte assez libérateur pour les hommes. Et malgré tout, nous les femmes sommes quand même intéressées à la libération des hommes. Il est écrit par Marcella Yacoub, qui est juriste, et par Patrice Manigliet, qui est philosophe, et qui, observant la loi, essaye de révéler à quel point le féminisme a gagné d'une façon totalement ambiguë. La thèse de Marcella Yacoub, essentiellement elle, c'est que le féminisme, à force de vouloir, à bon droit, réclamer l'égalité des sexes, a fini par valoriser chez la femme, et c'est ce qu'on voit dans le droit, essentiellement, l'empire des mères. Donc c'est ce qu'elle appelle l'empire du ventre. Il y a des choses qui choqueront évidemment les femmes ou les féministes, mais ce que je trouve très intéressant, c'est comment, assez froidement, les deux auteurs observent les situations qui sont créées par le droit. Un des grands slogans du féminisme et de la bataille pour l'avortement, qui était une belle bataille et une bonne bataille, c'était « un enfant si je veux, quand je veux », pour l'avortement et pour la contraception. Là, d'une façon un peu provocante, ils ont intitulé leur texte « Père, si je veux, quand je veux », en se posant la question de savoir s'il y a une réciprocité de ces droits entre les mères et les pères.
Et si l'inégalité n'épargnait pas les hommes ? Catherine Portevin a choisi un texte de l'anti-manuel d'éducation sexuelle.
Contraception, avortement et même accouchement sous X, il semble que tout soit fait pour que désormais les parents puissent n'avoir que les enfants qu'ils veulent vraiment. Puis arrive un jour où un homme apprend que la femme avec qui il vit, ou parfois avec qui il a simplement une aventure, est enceinte et qu'elle a bien l'intention de le garder. Innombrables sont ces histoires où l'on voit un brave garçon, un peu honteux, confier qu'il n'était pas très favorable, qu'il n'avait pas encore d'emploi, qu'il n'était pas sûr de sa relation avec cette femme, mais que bon, il n'a pas voulu faire comme tant d'autres, tourner le dos à ses responsabilités, demander à une femme une chose aussi grave qu'un avortement. À ses côtés, la jeune mère très fière, d'elle-même comme de son chevaleresque compagnon, vous dit qu'il fallait juste le pousser un peu et qu'il est désormais très content, un vrai papa poule. C'est faire contre mauvaise fortune bon cœur, car la vérité est que si les femmes disposent de tous les moyens pour ne pas devenir mères quand elles ne le souhaitent pas, et même en abandonnant l'enfant qu'elles ont mis au monde, les hommes, eux, n'ont quasiment aucun recours pour éviter qu'un spermatozoïde égaré ne finisse par les rendre, bon gré mal gré, père d'un petit être humain. Vous direz, mais vous n'allez tout de même pas permettre à un homme de forcer une femme à avorter quand elle ne le veut pas. Il n'est pas question de cela. Il est question du fait qu'il existe dans notre droit quelque chose qui s'appelle l'action en recherche de paternité, dont on ne mesure pas souvent la signification. Celle-ci permet à une femme, jusqu'à 2 ans après la naissance de l'enfant, d'obliger par la voie judiciaire un homme à devenir père, sauf s'il prouve par un test d'ADN qu'il n'est pas le géniteur. Quand bien même il aurait juré ses grands dieux, dès la conception, qu'il n'en voulait pas. Quand bien même il n'aurait jamais eu connaissance de la grossesse. L'enfant dispose, lui aussi, de 2 ans à partir de sa majorité pour entamer cette action en son propre nom. Un homme imprudent peut ainsi se voir pendant plus de 20 ans suspendu à une paternité non désirée. Quant aux hommes mariés, il n'est même pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Ils sont automatiquement présumés être les pères, et ils n'ont aucun recours si l'enfant est bien d'eux. Il est vrai que pour entamer une action en recherche de paternité, il faut donner des indices graves de la vraisemblance d'une filiation. Mais cela ne signifie rien d'autre pour une femme que d'accréditer l'idée qu'elle a eu une liaison avec cet homme. C'est donc bien de la relation sexuelle elle-même que les hommes sont responsables. D'abord, mesdemoiselles, si vous ne disposez d'aucune lettre d'amour, d'aucune amie suffisamment complaisante pour témoigner vous avoir vue avec ce garçon, si votre amant d'un jour n'a abandonné aucun indice, ou même si vous avez laissé passer les 2 ans de délai légal pour entamer l'action, ne vous faites pas trop de soucis, vous disposez encore de l'action en subside. Celle-ci est parfaite, elle permet de demander à un homme qui a couché avec vous de vous verser jusqu'à la majorité de l'enfant une pension, sans qu'il soit cependant déclaré père légal de l'enfant. Ce qui peut être un peu ennuyeux, obligé à partager l'autorité parentale et ce genre de tracas. Elle est d'autant plus utile qu'elle peut être demandée à plusieurs hommes simultanément, comme autant de tiers payeurs. Bien sûr, ceux-ci ont le droit de se soumettre volontairement à un test d'ADN pour montrer qu'ils ne sauraient être le géniteur de l'enfant. Mais qui sait ? Peut-être préféreront-ils ne pas prendre le risque de découvrir qu'ils le sont vraiment. L'action en subside n'empêchera d'ailleurs pas plus tard votre enfant d'entamer, après sa majorité, s'il le souhaite, une action en recherche de paternité. Que demander de mieux ? Tout cela est d'autant plus choquant que la possibilité offerte aux femmes d'accoucher sous X leur permet non seulement de garder l'anonymat, mais aussi, au cas où leur identité viendrait à être dévoilée, de rendre impossible toute action en recherche de maternité. Elles disposent ainsi non seulement de la contraception, non seulement de l'avortement, mais encore du droit de faire naître un enfant et de bloquer à tout jamais toute relation légale entre elle et lui. Les hommes, eux, n'ont pas même le droit de se désolidariser de leur spermatozoïde. La séparation du sexe et de la parentalité n'a pas été inventée pour eux, mais uniquement pour les femmes. Il n'y a que la maternité qui soit volontaire et non point la paternité. On pourrait pourtant imaginer donner aux hommes le droit de déclarer avant la naissance de l'enfant, par exemple au moyen d'un acte notarié ou devant un juge, leur volonté de ne pas être le père de l'enfant que porte telle femme, de sorte qu'on ne pourrait engager contre eux aucune action en recherche de paternité. Encore faudrait-il, bien sûr, qu'ils aient été informés de la grossesse. Il s'agirait d'une sorte d'engendrement sous X, qui accomplirait une véritable séparation entre la sexualité et la procréation. Celle-ci de nos jours n'existe pas. Contraception, avortement et accouchement sous X ont en réalité pour effet de donner aux femmes un contrôle absolu des conséquences familiales de la sexualité. On présente ces règles comme des manières d'égaliser la situation des hommes et des femmes face à la procréation, mais c'est l'inverse. Elles ont créé, ou plutôt perpétué dans ce domaine, une inégalité radicale entre les sexes. J'entends déjà certains s'indigner, crier que c'est le monde à l'envers, que la vérité est que les hommes ne cherchent jamais qu'à fuir leurs responsabilités, à abandonner femmes et enfants pour partir avec une autre, qu'ils abandonneront par la suite, à prendre leurs pieds et disparaître, qu'il est tout de même normal qu'on les rende responsables, etc. Ces discours rappellent tout de même étonnamment ceux qui dénonçaient, dans les années 60, le comportement sexuel irresponsable des femmes pour leur interdire l'accès à la contraception. Les hommes seraient-ils devenus les salopes de ce début du XXIe siècle qui n'ont qu'à s'abstenir d'avoir des relations sexuelles s'ils ne sont pas prêts à en assumer toutes les conséquences ? Mais aussi, pourquoi les hommes laissent-ils toujours aux femmes le soin de la contraception ? Demanderont d'autres voix plus modérées. C'est trop facile, ils n'avaient qu'à prendre leurs précautions. Mais n'est-ce pas là encore ce que certains disaient pour interdire l'avortement alors que la contraception était déjà autorisée ? D'ailleurs, ceux qui travaillent dans les services où l'on procède aux IVG vous diront que le préservatif est loin d'être un moyen infaillible. Il est vrai qu'il y a une méthode contraceptive exclusivement masculine et tout à fait imparable. Il s'agit de déposer un nombre raisonnable de plaquettes de sperme dans les banques de sperme, puis de procéder à une vasectomie, autrement dit de se stériliser volontairement. Lorsque vous voulez un enfant, vous procédez à une insémination artificielle et voilà, le tour est joué. Hélas, la stérilisation contraceptive a été interdite en France jusque très récemment. Elle a été finalement autorisée en 2001, sans trop de publicité d'ailleurs, et sans non plus qu'on pense vraiment à tempérer cette inégalité des hommes et des femmes devant leur liberté sexuelle. Il s'agissait plutôt de chercher des moyens pour modérer le recours des femmes françaises à l'avortement jugé trop fréquent. Jusque très récemment, donc, les hommes n'avaient tout simplement pas le droit de recourir à la seule méthode contraceptive masculine vraiment efficace. On peut y trouver, il est vrai, une consolation. Les hommes raisonnables devraient être incités à utiliser plus systématiquement des préservatifs afin de se protéger du sida autant que d'une paternité non désirée. Vous pouvez dire qu'il est normal qu'on force les hommes à devenir pères, non pas relativement aux femmes, mais dans l'intérêt de l'enfant. Celui-ci aurait besoin d'une mère et d'un père. Et même si ce n'est pas très juste, une fois qu'un enfant est au monde, la considération de son bien-être doit passer avant toutes les questions d'égalité des sexes. Mais à la vérité, il est difficile de se convaincre qu'il est vraiment dans l'intérêt de l'enfant d'avoir un père contraint. La réprobation qui entourait jadis les enfants sans père a pratiquement disparu. Les parents isolés disposent d'aides de l'État, qui sans doute devraient être plus importantes, mais ont tout de même le mérite d'exister. Les femmes peuvent trouver un autre père pour leur enfant, qui, lui, sera plus désireux d'assumer ce titre et ce rôle. Il est douteux qu'il soit vraiment épanouissant d'avoir un père qui vous perçoit comme une dette et que vous devez sans cesse traîner devant les tribunaux pour vous payer une pension, participer à vos études. Mais surtout, si vraiment on croyait qu'un enfant devait avoir un père et une mère, et si toutes les considérations sur les libertés procréatives devaient céder devant cet impératif suprême de la psychologie ordinaire, Pourquoi n'oblige-t-on pas les femmes à entamer de telles actions? Pourquoi permet-on à certaines de faire un enfant toute seule? Pourquoi l'État lui-même n'intente-t-il pas directement de telles actions? Que faut-il en conclure? Que les libertés négatives que notre société s'est octroyées en matière de procréation n'ont pas eu pour but ni pour effet de séparer celle-ci de la sexualité, mais plutôt de faire des femmes, et plus précisément des femmes fertiles, les points fixes de toutes les familles. Tout est fait pour que les pères soient relativement substituables, incertains, contingents, presque accessoires, alors que les mères doivent être indiscutables, inexpugnables, vraies. Cela est particulièrement évident si on regarde le traitement différent qu'on réserve à la vérité biologique selon qu'il s'agit des hommes ou des femmes.
C'était un extrait de l'Antimanuel d'éducation sexuelle de Marcella Yacoub et Patrice Maniglier, publié en 2005 aux éditions Bréal.